Le système de gestion de base de données doit permettre à chaque champ de demeurer nul. Base de données, demeurer nul. Langage relationnel. Langage relationnel. Sacré Edgar. Ça y est, la solution, je la tiens. IBM va me détester.
En 1977, Larry Ellison, 34 ans, vient de faire une découverte qui va changer sa vie. Après une lecture d'un article de l'informaticien Edgar Francode sur la notion de SQL, Larry comprend qu'un meilleur agencement des données peut révolutionner la vie des entreprises. Il est temps pour lui de se mettre à son compte. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Larry Ellison, le fondateur d'Oracle. De décrocheur scolaire à programmeur autodidacte et à milliardaire flambeur, il est l'un des grands pionniers de l'informatique moderne.
Donc, comme je vous le disais, faites des choses que vous aimez. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?
Je ne sais pas encore. J'hésite.
Je veux acheter une fusée aux Russes pour aller dans l'espace.
N'aie pas peur de l'avenir. Il faut se construire. L'expérience ne s'achète pas et ne se transmet pas.
Bienvenue sur le podcast Il était une fois l'entrepreneur, le seul podcast business en France qui raconte les histoires comme une série tous les mardis. Je m'appelle Laurent Brouat, je suis le fondateur de Inspire Media et chez Inspire Media, en plus de raconter des histoires, nous aidons les sociétés B2B à lancer leur podcast. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à nos spectacles dans toute la France, Inspire sur scène, que vous pourrez retrouver en descriptif de l'épisode.
Larry, passe-moi le pain de viande. Au fait, on t'a jamais dit, mais tu as été adopté. Liliane, le sel.
Quoi ? Larry a 12 ans lorsque ses parents lui annoncent entre le fromage et le dessert qu'il a été adopté à l'âge de 9 mois, que sa mère, seule, adolescente et sans le sou à New York, l'a abandonné bébé à sa tante Liliane et à son mari Louis Ellison, car elle ne pouvait pas en prendre soin. La relation avec son père adoptif est conflictuelle.
Tu n'es qu'un bon à rien, Larry. Tu n'es même pas fichu d'écouter en classe. T'es une pauvre merde.
Larry n'aime pas l'école. Brillant, il insupporte ses professeurs avec toutes ses questions. Mais inattentif et dissipé, ses résultats scolaires sont médiocres. Il parvient pourtant à intégrer l'université de l'Illinois et remporte même un prix en sciences. Sauf qu'une triste nouvelle le pousse à abandonner ses études.
Oh non, pas Liliane. Pourquoi ? Mais pourquoi ? C'est pas juste. C'est trop tôt pour mourir.
Liliane, sa mère adoptive dont il est proche, meurt brutalement. Larry retourne à Chicago. Il s'inscrit de nouveau à l'université mais capitule après un seul semestre. L'ambiance à la maison est irrespirable. Son père boit beaucoup. En 1966, Larry a 22 ans. À bord d'une Thunderbird turquoise tape à l'œil, il quitte définitivement Chicago. Direction Berkeley en Californie pour une nouvelle vie. De ses courtes années universitaires, Larry a tout retenu des cours de programmation informatique. Il devient programmeur pour plusieurs sociétés dans la Silicon Valley, dont IBM. Il est doué et il le sait.
Monsieur Ellison, vous avez encore 20 minutes de retard aujourd'hui.
Est-ce que j'ai déjà rendu un des projets de programmation en retard ? Non. Les projets des autres sont-ils rendus à temps ? Non. Donc je suis le meilleur. C'est simple, soit j'arrive à l'heure et je vous rends mes dossiers en retard, soit j'arrive en retard et je vous rends mes dossiers à l'heure.
À 25 ans, il possède déjà sa propre maison, une voiture de sport et son premier voilier. Mais cela ne semble pas convenir à sa femme.
Larry, tu pourrais être plus ambitieux. Je sais pas, moi, passe un diplôme au moins.
Pourquoi faire ? Je gagne plus qu'un diplômé en travaillant 3 fois moins. Pas mon genre d'aller faire les cours du soir, je préfère aller naviguer. Mon père, puis toi, j'en ai marre de devoir me plier à vos attentes.
T'es vraiment minable. T'as aucune ambition, c'est pathétique.
En 1969, après 2 ans de mariage, le couple se sépare. Larry a l'impression de respirer et ça donne à la randonnée, la voile et les sorties lorsqu'il ne travaille pas. Il continue aussi de programmer d'une entreprise à une autre. Puis, dans les années 70, il atterrit chez le fabricant d'électronique informatique, Ampex.
Ellison, tu es notre meilleur programmeur. Je voudrais que tu gères un dossier hypersensible. La CIA nous demande de construire sa nouvelle base de données. Nom de code, Oracle.
Larry ne se doute pas encore que cette mission va bouleverser son existence. Non seulement il rencontre ses futurs partenaires Bob Miner et Ed Oates, mais surtout l'idée du siècle.
Langage relationnel.
Sacré Edgar. Ça y est, la solution, je la tiens. IBM va me détester.
Dans le cadre de ses recherches pour cette mission secrète, il tombe sur un article de Edgar Codd, un mathématicien informaticien d'IBM. Larry découvre l'un des théorèmes fondamentaux de la théorie des bases de données. IBM a décidé de laisser ses recherches. Larry, lui, va s'en emparer.
Bob, Ed, allez, on se tire d'ici. Je monte ma boîte et j'ai besoin de mecs comme vous pour réussir.
Aidé de Bob, brillant informaticien, et de Ed, ingénieur, deux ex-collègues de chez Ampex, Larry Ellison cofonde en 1977 Software Development Laboratories. La société démarre avec un financement de $2000, dont $1200 proviennent de la poche d'Ellison.
Oui, je souhaiterais parler au responsable de Bank of America. Bonjour monsieur, ici Larry Ellison. J'ai un logiciel qui pourrait changer la vie de votre entreprise. J'ai un logiciel qui pourrait bouleverser l'organisation de la NASA. Oracle 2, vous connaissez ?
Non.
Il s'agit d'une collection de données et d'informations mises dans un format qui permet de rechercher et de trouver très facilement ces informations. Il n'y a rien de plus compliqué que cela.
Larry se transforme en un commercial évangélisateur et cible toutes les agences gouvernementales américaines. Oracle 2 est en vérité la première version de la base de données Oracle. Personne ne veut acheter de version 1, d'où l'idée d'une version 2.
Bon, les gars, maintenant qu'on a les clients, au travail et achevez-moi ce foutu produit.
La CIA passe commande. Larry est aux anges. Sauf que les paiements tardent à venir. Larry cesse de se payer et travaille plus dur qu'il ne l'avait imaginé.
Bah Jerry, t'as vu l'heure ? T'es pas couché ?
Et c'est une heure pour rentrer, ça ? Larry, c'est plus possible. La banque a appelé. Ils saisissent nos deux maisons. T'es jamais là. J'en peux plus. Je veux divorcer.
Larry divorce alors pour la seconde fois. L'argent de la CIA arrive enfin. Puis, c'est au tour de l'armée de l'air de commander le logiciel. Lentement mais sûrement, les ventes décollent. En 1979, la société se rebaptise Relational Software Inc., puis officiellement Oracle Systems Corp. En 1982. Oracle devient l'une des startups les plus prospères de la Silicon Valley. Porsche et BMW envahissent le parking de l'entreprise.
Hey Bob, mate-moi ma nouvelle Ferrari 348, la première de Californie.
En 1986, c'est le Graal. Oracle fait une entrée fulgurante en bourse, valorisée à $93 millions. Et pourtant, Larry fulmine.
Putain de bille de merde! Va chier, Microsoft! Ah! Je l'aurai un jour! Je l'aurai!
L'introduction en bourse d'Oracle est éclipsée dès le lendemain par celle de Microsoft. Bill Gates empoche la somme astronomique de $350 millions et devient le pire ennemi de Larry. Larry redouble alors d'agressivité dans les méthodes de vente d'Oracle au détriment de la qualité des nouvelles versions des logiciels. Certaines versions sont purement vendues alors qu'elles n'existent pas encore et les clients commencent à se plaindre. En 1990, le verdict tombe. Oracle est en crise, tout comme la fortune personnelle de Larry. Le 1er novembre 1990, il perd $790 millions.
Allez vous faire voir, hors de question de se faire racheter. On licencie et basta.
10% de ses effectifs, soit environ 400 personnes, est mise à la porte. Et la version Oracle 7, sans bug, sort enfin. L'entreprise est sauvée in extremis et enregistre de nouveau des revenus exponentiels. En 1994, son action vaut alors près de 3 milliards de dollars. Larry, lui, n'oublie pas sa vendetta contre Bill Gates. En 1996, dans une interview télévisée menée par Charlie Rose, Larry lance le NC en grande pompe pour faire concurrence à Microsoft et son PC.
Windows 95, c'est complètement nul. C'est un logiciel extrêmement compliqué. Comment voulez-vous que les gens soient autonomes avec ce genre de technologie à deux balles? Moi, j'ai une solution. Et elle est simple. Elle s'appelle NC, Network Computer. Vous voyez, Charlie, avec le NC, vous pouvez surfer sur le net, envoyer des courriers seulement pour 500$. Finalement, c'est aussi simple d'utilisation que votre grippe.
Sauf que le lancement est prématuré et la chute des prix des PC voue le NC à l'échec. Larry n'arrive toujours pas à concurrencer Bill Gates. Mais Oracle est devenu cool. Larry fait la une du Forbes. Il en profite pour reprendre la présidence d'Oracle.
Allô, Ray ? Ah, t'es en vacances ? Désolé de te déranger, c'est juste pour te dire que je reprends la présidence d'Oracle.
Vraiment ?
Toute l'entreprise doit comprendre qu'il n'y a qu'une autorité centralisée, qu'il s'agit du PDG, et donc ce sera moi. Avoir deux dirigeants, c'est plus possible. Bonne fin de vacances, Ray.
Larry, attends. Qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Après l'éviction de Ray Lane, qu'il avait recruté comme président en 1992 pour redresser Oracle, Larry souhaite renforcer la position de leader de l'entreprise. Il se lance alors dans l'achat de nouvelles technologies par le biais d'acquisitions par plusieurs OPA hostiles tout au long des années 2000. En 2010, Oracle rachète Sun Microsystems, une société de serveurs qui lui permet d'acquérir la célèbre base de données MySQL. Après ce coup de poker, Larry a une nouvelle obsession, la conquête de l'océan.
Well, it's a dream come true for Larry Ellison off the coast of Spain on Sunday. The software billionaire managed finally to conquer the America's Cup and bring the trophy back to US shores. Lindsay Janis was there.
À 65 ans, Larry Ellison remporte le trophée de sa vie, la Cup of America, à bord de son trimaran Doxilla. Il divorce pour la quatrième fois et se met peu à peu en retrait d'Oracle pour s'adonner à ses passions, la voile et l'immobilier.
Pour l'île Lanai, je fais une offre pour un montant de 300 millions de dollars. Et j'ajoute 500 millions de dollars pour la construction et la rénovation des bâtiments de l'île. Vous ne pouvez pas refuser.
Déjà propriétaire d'une vingtaine de propriétés en Californie et d'une gigantesque demeure de plus de 16 000 mètres carrés, construite comme un village de samouraïs du XVIe siècle, Larry achète en 2012 98% de l'île Lanai à Hawaï. En 2014, il se retire officiellement du poste de PDG d'Oracle, laissant derrière lui des accusations de sexisme et autres scandales. Sa fortune est estimée en juin 2021 par Forbes à 102,4 milliards de dollars. Il est alors la 9e personne la plus riche du monde. Une fortune qu'il dépense dans Ellison Medical Foundation pour financer les recherches anti-vieillissement. À ce sujet, une blague de la Silicon Valley raconte que la différence entre Dieu et Larry Ellison est que Dieu, lui, ne se prend pas pour Ellison. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci encore. Mais oui, faut le dire, hein, parce que là, franchement, c'est de la fidélité, c'est de l'amour, c'est beaucoup de choses pour faire ces épisodes avec vous. Et c'est précieux que vous nous aidiez, que vous parliez de ces épisodes, car c'est beaucoup de travail, de la documentation, de l'écriture, du travail d'acteur, bref. Merci à Thibaut Viotte, Sarah Brevet pour l'écriture, Morgane Bouchiba pour le son et tous les acteurs qui nous aident pour construire ces beaux épisodes. Merci à tous et à bientôt.